Amélie Pinault, bonjour.
Bonjour.
Amélie Pinault, vous êtes thérapeute, gestalt thérapeute. Gestalt thérapie, c'est une méthode qui aide les gens.
Qui essaye en tout cas. La gestalt thérapie, oui, ça sert à accompagner les gens. Effectivement, ça essaye de les aider à ouvrir des possibles. C'est-à-dire à ce qu'on soit plus libre après qu'avant.
Alors gestalt thérapie, en quelques mots, ça consiste en quoi ?
Ça consiste à aller explorer les modalités, c'est-à-dire aller regarder les comment plus que les pourquoi. On a plus l'habitude dans nos représentations de considérer le travail thérapeutique comme une recherche des pourquoi, d'aller chercher la cause de, qu'il n'y ait une seule manière de voir les choses et une seule manière d'écrire l'histoire, notre histoire en l'occurrence. En gestalt thérapie, on ne travaille pas comme ça. Alors, chacun son style évidemment et c'est absolument pas ni du copier-coller, ni du protocole. Ça dépend beaucoup du style du thérapeute, mais on va dire que grosso modo, on va explorer ce qu'on appelle nos modalités d'être, c'est-à-dire comment, ben moi, être humain, parce qu'on est dans une thérapie humaniste et existentielle, comment moi, être humain, et ben j'essaye d'être de plus en plus humain. Et donc d'ouvrir mes possibles en termes de modalités d'être au monde, j'ai l'habitude de faire comme ça, comment est-ce que je peux éventuellement aussi faire autrement, c'est pas forcément arrêter de faire comme je faisais avant, mais comment je peux me donner le choix de faire comme ça et autrement. Voilà, on travaille beaucoup sur mettre du « et ».
Cette méthode convient à quel type de personne ? Est-ce qu'il y a un type de personne déjà ?
Alors on dit que ça convient très bien aux êtres humains en règle générale. Pour ma part, moi j'aime bien travailler avec les HPI, zèbres et autres surdoués parce que c'est une problématique moi qui me touche. Hein. Après c'est voilà, chaque thérapeute a ses zones d'attendrissement on va dire. Et je trouve que c'est très très libérateur de travailler en gestalt thérapie parce que justement il n'y a pas comment dire d'attendu en termes de normalité ou d'anormalité. La catégorisation, on essaye de s'en défaire au maximum. Alors c'est vachement facile à dire et hyper difficile à faire. Même dans un travail de thérapie, même quand on a l'habitude, même quand on a tout un fond théorique différent. Mais disons qu'on tend vers ça. C'est une manière de tendre à se défaire de nos catégorisations assez morales et d'arriver vers quelque chose qui est parfois très concret, très simple. Enfin, il n'y a pas non plus, on ne fait pas de la philosophie tous les jours, on va dire, mais on peut aussi, à un moment, parler de notre condition d'être humain, de notre être à mourir, et de, si on part de ça, et ben, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre vie de tous les jours, par exemple.
Amélie Pinault, vous m'avez parlé de personnes qui venaient vous voir en étant seules, qui conjuguent le « je » et qui repartent en conjuguant le « nous ».
On essaye. Moi, je crois beaucoup. Je disais qu'en gestalt thérapie, on essaye de faire du « et ». Voilà, je considère vachement le cabinet, le lieu de la thérapie en tout cas, qu'on appelle souvent un cabinet, comme une sorte de laboratoire. C'est vraiment un laboratoire où, pour moi, on essaye de créer des conditions de sécurité nécessaires pour pouvoir expérimenter du « nous » sous les modalités qui, parfois, sont problématiques à l'extérieur. Alors, ça clash, ça déclash, ça plie et ça déplie. Ça, c'est une expression de la gestalt, hein, d'aller explorer les plis. On déplie une problématique au maximum, on la décortique. Et l'idée étant, oui, peut-être d'essayer d'apprendre à faire du « nous ». Et en ça, le thérapeute est aussi mobilisé que le patient parce que c'est un vrai travail qui se fait à deux. Donc en gestalt thérapie, le thérapeute n'est pas un sachant, il ne sait pas mieux qu'eux, il n'est pas positionné comme expert du tout. On est en travail à deux. Alors au début, le thérapeute est plus au courant que le patient, parce que ce n'est pas du tout attendu. Mais au fur et à mesure du travail, on se rend compte que tout le monde bosse en fait.
Pour les atypiques, pour les personnes à haut potentiel, pour les surdoués, dirons-nous, pour généraliser, est-ce que cette méthode a quelque chose de pratique ?
D'adapter, je dirais. Effectivement, comme on sort de la catégorisation, on est dans une exploration qui est en dehors du domaine de la morale. Donc c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire quand on a reçu beaucoup de « tu es trop comme si » ou « c'est pas assez » ou « c'est jamais comme il faut », c'est hyper compliqué même d'aller voir un psychologue parce qu'on se retrouve dans des catégories à nouveau et que on sait que voilà, il y a beaucoup de HPI qui vont voir des thérapeutes et c'est pas adapté. Enfin, c'est pas adapté. En tout cas, le résultat leur est préjudiciable, ce qui est dommage quand même. Donc l'idée là, ça va être d'accueillir ce qui est là. La gestalt thérapie s'appuie sur la phénoménologie. Alors ça c'est pour faire un peu de fond théorique, mais la phéno, c'est vraiment le phénomène et c'est vraiment ce qui est. Il n'y a pas de jugement à cet endroit-là, c'est vraiment juste prendre ce qui est là et arriver à le décortiquer le plus loin de la morale possible, on va dire. Et du coup, ben voilà, on peut accueillir des gens qui sont tout empêtrés dans ce qu'ils sont, mais peu importe. L'idée ça va être de pouvoir le faire exister et le faire exister avec.
Une méthode sur le long cours ?
Alors long cours, je dirais moyen cours. C'est-à-dire qu'on est très très loin des TCC et de quelque chose qui va être des thérapies très très courtes. On n'appelle pas ça thérapie brève. En revanche, on est très très loin de la psychanalyse et ça ne dure pas 20 ans. Donc c'est un travail qui, je dirais, prend le temps du lien. C'est-à-dire prend le temps de créer un lien et de le vivre en tant que tel et d'arriver à le nommer en tant que tel et d'arriver à l'exporter. Après, j'ai envie de dire, c'est tout bonus quoi.
Les problèmes ou les postures de vie que vous rencontrez le plus, quelles sont-elles ?
Alors c'est étonnant, alors les postures de vie que je rencontre le plus. C'est un peu compliqué comme question pour moi ça. Souvent des gens assez perdus sur la non-adéquation entre ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ne s'autorisent pas à ressentir, en tout cas quelque chose qui viendrait de l'intérieur et qui n'est pas validé par l'extérieur. Qui ne trouve pas sa place à l'extérieur, qui ne trouve pas son écho en fait, qui ne trouve pas sa résonance juste. Et c'est très compliqué du coup de vivre dans ce décalage en permanence parce que on ne peut pas se valider soi-même. Du coup, il y a des gros problèmes de légitimité. Je dirais que si je dois beaucoup résumer, c'est ça que je croise le plus souvent. Et du coup, le travail, en l'occurrence, consiste à venir explorer ces sensations intérieures, on va dire, ou ces ressentis, ou ces réflexions qui ne trouvent pas d'écho à l'extérieur, et d'arriver à les valider d'une manière ou d'une autre pour qu'elles puissent exister et qu'elles trouvent une voie de passage pour exister et puis continuer à en générer d'autres et puis aider la personne à prendre sa place, en l'occurrence.
Émilie Pinault, vous êtes sur Bordeaux, je crois.
Oui.
Alors peut-être une dernière question, comment vous contacter ?
Alors on me contacte principalement via mon site internet, ameliepinault.fr, Pinault ça s'écrit P-I-N-E-A-U comme l'alcool. Et là il y a mon numéro de téléphone, il y a un mail contact, il y a tout ce qu'il faut.
Amélie Pinault, merci beaucoup.
Merci à vous.